9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, demain la fin du grand débat. Ce matin, deux regards, deux livres sur le mouvement des Gilets jaunes. Le journaliste fondateur de Mediapart et du Plenel salue la victoire des vaincus quand le sociologue François Dubet déplore ce temps des passions tristes. Nous les entendrons l'un et l'autre avant de les confronter l'un à l'autre. Et du Plenel, François Dubet en débat. Et dans la dernière partie de C'est arrivé demain, le retour de Bertrand Blier, le cinéaste des Valseuses, de Buffet froid, de Trop belle la vie, de Trop belle pour toi, qui réunit Clavier et Depardieu dans un absurde et réjouissant convoi exceptionnel. Tout cela après un bref hommage à l'homme aux mille voix, Jacques Baudouin, chansonnier, imitateur, virtuose vocal, dont les voix Pollux, Zébulon, Le Grand Yaka, Philibert ont bercé notre enfance.
Alfred, monsieur, Alfred, chef de communication par deux, bonjour, inspecteur.
Oui, monsieur. Moi, des fois, des fois, deux, quatre, des fois, trois, six, des fois, quatre, huit, des fois, cinq, dix, des fois, six, seul.
Je suis Melchior, son prestidigitateur. À Kaby, à Kaba, et voilà.
Tournicoté, tournicoton.
Et nous avons préparé pour vous une spécialité typiquement écossaise, une chose extrêmement savoureuse. La ponce de brebis forcée.
Titus, tu te moques du grand Yaka? Tu es un traître, tu n'as pas de bateau, tu es un menteur. Ceci, cela, enfermez-le dans sa cage.
Qui a fait ça?
C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'opéra, maître.
C'est amusant. Sortez!
Jacques Baudouin, le Méphistophélès de la Grande Vadrouille, dont on vient d'apprendre la mort à 97 ans.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Adil Plenel.
Bonjour.
Président et cofondateur de Mediapart, vous publiez aux éditions La Découverte, La victoire des vaincus, livre écrit à chaud à propos d'un mouvement, celui des Gilets jaunes, que vous saluez comme un événement inédit, inventif et incontrôlable. C'est ça la première victoire des Gilets jaunes, d'avoir fait surgir l'inattendu?
C'est l'événement qui doit nous interpeller, nous journalistes, puisque au fond c'est notre matière première de comprendre ce que nous n'avions pas prévu et de ne pas forcément le faire rentrer dans des boîtes préétablies. La victoire des Gilets jaunes, pour moi, c'est ce fait, et ça ne prédit pas de leur avenir, hein, qui peut être aussi sombre qu'il peut être aussi heureux, c'est d'avoir mis à l'agenda par l'en bas de la société, des questions que l'en haut, en l'occurrence le pouvoir actuel, ne voulait pas entendre. D'abord, la question des inégalités, c'est une révolte de l'égalité, et on l'a vu dans les mesures économiques et sociales que le pouvoir a été obligé de prendre, même si les Gilets jaunes les trouvent insuffisantes. Et le deuxième temps, et qui est pour moi la vraie surprise, et vous connaissez mon attachement à la critique du présidentialisme français, à la question démocratique française, ce pouvoir d'un seul qui confisque la volonté de tous, c'est tout d'un coup de voir un mouvement de travailleurs pauvres, avec une forte présence des retraités, des femmes au début, mettre à son agenda commun, dans une diversité sociale, partisane, idéologique, très diverse et très confuse, cette question démocratique, avec du coup la mise en cause du pouvoir personnel d'Emmanuel Macron.
Mais vous n'avez pas entendu dans ce mouvement davantage de haine contre Emmanuel Macron que de rejet de la fonction présidentielle elle-même?
Il y a eu évidemment ces incidents et nous ne sommes pas les derniers à les condamner, y compris ces haines et ces violences qui sont toujours mauvaises conseillères. Mais il y a eu quand même une volonté d'en haut, très vite, de la part du pouvoir, d'abaisser ce peuple. Ce peuple devait être laid, devait être vulgaire, devait être grossier, violent, une foule haineuse, a-t-il dit, et donc, évidemment, raciste, antisémite, ce qui n'empêche pas qu'il y a eu des incidents, et nous n'avons pas été les derniers, je le redis, à les commenter et à les condamner. Mais il y a eu une forme, je le redis en convoquant, y compris des souvenirs, parce que c'est un livre qui réfléchit entre la longue durée et le présent avec le 19e siècle, parce que je crois qu'il y a un côté 19e-iste de ce qui est arrivé là. Il y a eu une profonde haine de classe, une grande peur des possédants qui persiste. Et je crois qu'il faut, d'une certaine manière, les inviter à ouvrir leurs yeux et à comprendre la complexité de la réalité.
C'est l'un des buts de votre livre, réhabiliter ce mouvement, puisqu'il va être question des inégalités. On va en parler dans un instant avec François Dubé. Est-ce que vous n'idéalisez pas ce mouvement quand vous écrivez, par exemple, que les Gilets jaunes ne se sont pas révoltés contre l'impôt, mais contre son injuste répartition? Est-ce que, quand même, au départ, la révolte fiscale, elle n'était pas primaire et individuelle contre des taxes qui s'appliquaient directement aux individus concernés?
Non, je ne crois pas. Il faut s'intéresser à la parole collective des Gilets jaunes. Quand ils se posent, quand ils discutent et quand ils élaborent des textes. C'est ça qu'aussi nous avons raconté et regardé.
Il n'y a pas eu beaucoup de textes collectifs.
Il y a beaucoup. Il y a un livre entier. Il y a un livre entier qui est sorti chez Sileps, que vous pouvez aller voir.
Mais qui n'a pas été élaboré par beaucoup de monde.
Si, mais non, sincèrement, Patrick Cohen, l'Assemblée des assemblées à Commercy,
nous 350 personnes.
Mais 75 délégations, c'était des délégations. 75 délégations. Et ensuite, comme vous le savez, nous avons nous-mêmes, Mediapart, été 2h30 sur place et nous avons filmé. Je rappelle qu'il y a une nouvelle Assemblée des assemblées qui se tiendra où à Saint-Nazaire, grande ville de tradition ouvrière. Le texte de Commercy est un texte non seulement sans ambiguïté sur le racisme, mais qui est un texte, justement, il conteste le fait, et je le documente dans le livre, qu'il y a eu une politique de la part de M. Macron qui a appauvri l'État, moins 39% du côté des revenus pour l'État venus de la suppression de l'impôt sur la fortune, du patrimoine, des profits des actionnaires. C'est-à-dire qu'en clair, tout le monde paye plus, sauf les ultra-riches qui en plus touchent plus puisqu'ils ne sont pas taxés.
Edwige Plenel, la victoire des vaincus. Dans un instant, le sociologue François Dubé va nous livrer un point de vue différent sur les gilets jaunes et les passions tristes qui, selon lui, les ont animés. Juste après, vous pourrez échanger avec lui. À tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour François Dubé.
Bonjour.
Sociologue, professeur émérite à l'Université de Bordeaux 2, directeur d'études à l'EHESS. Vous publiez au Seuil dans la collection La République des idées, Le temps des passions tristes, ou pourquoi les inégalités sociales et le sentiment d'injustice nourrissent la haine, la peur, la colère, le mensonge et la violence, ce que Spinoza, le philosophe de la démocratie, avait appelé les passions tristes, celles qui ont triompher aux États-Unis avec Trump, en Pologne, en Hongrie, en Italie avec Salvini, au lieu de renforcer les mouvements et les partis plus favorables à l'égalité sociale. Votre analyse, François Dubé, votre hypothèse, c'est que ce n'est pas l'ampleur des inégalités qui a changé. En France, elles se sont creusées, mais moins qu'ailleurs, et elles n'ont pas explosé. Ce qui a changé, c'est la façon dont elles sont perçues.
Oui, c'est un raisonnement assez classique. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation complètement étrange, et pas seulement en France, dans laquelle les inégalités grandissent plutôt, mais surtout se déstructurent. C'est-à-dire que l'expérience des inégalités, c'est mon hypothèse, a complètement changé de nature. Elle est devenue une expérience personnelle, une épreuve personnelle. Au fond, moi, j'ai écrit ce bouquin avant les Gilets jaunes et les premiers entretiens de Gilets jaunes sur les ronds-points m'ont ravi parce qu'ils parlaient comme je supposais qu'ils parleraient en disant « moi, je suis méprisé, moi, je suis blessé, moi, les inégalités m'atteignent, moi ». C'est d'abord une expérience personnelle. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que je crois que les vieilles classes ont été détruites par le néo-capitalisme. Bon, c'est-à-dire, tout ça est raconté de mille manières. Et surtout parce que, d'une certaine façon, chacun d'entre nous peut être défini par plusieurs registres d'inégalités. Je veux dire, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens où les gens vous disent « je suis inégal en tant que ». Je suis inégal en tant que diplômé, en tant que vivant à la campagne, en tant que divorcé. Si je suis une femme, ça c'est vraiment terrible, etc. Donc, je suis inégal en tant que... Et l'expérience des inégalités est devenue très individuelle. J'ajoute évidemment que l'accès à Internet fait que chacun a écrit... C'est très fascinant, d'une certaine manière, on s'y est habitué, mais chacun est un mouvement social à lui tout seul. Là où il fallait trouver une salle municipale, réunir des copains, avoir une imprimerie, 3 militants, etc., ce qui rationalisait l'action d'une certaine manière, chacun y va. Et donc, on a ces sentiments assez sombres, d'une certaine façon, parce que les enquêtes le montrent très bien, on se compare au plus haut, au-dessus. Mais on se compare au-dessous, parce que le jeu de la comparaison s'étant rapproché, il faut se démarquer du dessus. Et je suis pas sûr que si le monde des banlieues que j'avais fort étudié il y a longtemps s'était retrouvé sur les ronds-points, ça se serait passé aussi bien que ça.
Donc, pour résumer, François
Dubé. Parce qu'on est dans des jeux de démarquage permanents. Et aujourd'hui, le problème, pour résumer, c'est que tout ça n'a pas de représentation politique. Et au fond, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui dit à peu près tout ce qu'on peut entendre. Pas ce que dit Edith Pénel est vrai, mais ce qu'il dit moins est vrai aussi. Et qui ne parvient pas à construire une représentation politique. Et plus que ça, un mouvement que les partis politiques, a priori,
destiné à l'égalité sociale,
a priori destiné, non, mais je veux dire les partis qui parlent du peuple contre les oligarchies, etc., etc., ont l'air de piétiner là-dessus de la même manière. Donc on est dans un moment où on a du mouvement social sans cadre politique et peut-être même, pour le moment, sans véritable cadre idéologique.
Sans relais politiques ou syndicaux, l'indignation fonctionne comme un exutoire, écrivez-vous, un lynchage, tous nuls, tous pourris. Elle postule que le peuple est toujours meilleur que ses représentants. On a donc cette crise de la représentation. Et sans offre politique rationnelle, on peut s'indigner de tout. C'est ce que vous écrivez, c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire à la fois la hausse des impôts et l'affaiblissement des services publics.
C'est quand même ce qu'on peut craindre, et bon, je pense que ça ne va pas durer éternellement, mais on est dans ce moment où on peut le craindre. Après tout, il s'est passé des choses en Italie, après tout, il s'est passé des choses en Grande-Bretagne, après tout, il s'est passé des choses aux États-Unis, après tout, il s'est passé des choses au Brésil. Je veux dire que ce n'est pas une affaire seulement franco-française et tenant seulement à Macron. C'est quand même quelque chose d'un peu plus large.
François Dubé, sociologue, inquiet de la victoire des passions tristes face à Edith Pénel, journaliste réjoui de la victoire des vaincus qu'on va retrouver pour un dialogue où vous allez confronter vos points de vue Dubé Pénel dans un instant.
Europe 1. La suite de cette arrivée demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec le sociologue François Dubé qui publie « Le temps des passions tristes, inégalité et populisme au seuil » et le journaliste fondateur de Mediapart, Edith Pénel, auteur de « La victoire des vaincus à propos des Gilets jaunes » à la découverte. Votre regard, Edith Pénel, est-ce que vous convenez que les vaincus que vous célébrez dans votre livre ont pu céder à des passions tristes ?
Je suis entièrement d'accord avec le point de départ de François Dubé, qui est dans la logique de tous ses précédents travaux sociologiques sur cette question de comment l'inégalité traverse en profondeur nos sociétés. Là où nous nous dissocions n'est pas sur le constat. Elle est sur, au fond, et je vais lui renvoyer le mot, d'une nostalgie, d'une mélancolie politique par rapport à ce que je sens être, moi, un vieux monde politique, qui est le monde du XXe siècle, dont, à mon avis, il a échoué, qui est le monde des partis, des avant-gardes. Vous l'avez sous les yeux en France. Nous avons un des plus faibles taux syndicalisation en Europe. Il suffit d'aller chez les Belges pour avoir honte. Nous avons des partis qui ne sont plus du tout ancrés dans la réalité populaire. Je parle de la gauche, qui sont des partis de professionnels. Alors, bien sûr, qu'il y a cette question de l'individualisme. Mais un de vos collègues, François de Singly, montre très bien que notre époque est aussi cette époque où on fait du commun avec du moi, où le fait d'être soi, de ne pas être dissous dans le groupe, au nom du parti, au nom de la classe, au nom de la cause, est parfois une renaissance. Vous l'avez eu d'ailleurs dans des mouvements de la société. Par exemple, le mouvement des femmes n'est pas un mouvement de dissolution des individualités. C'est au contraire, moi, je fais avancer la cause de tous. Et enfin, dernier mot, puisque c'est les passions tristes qui animent le livre de François Dubé, je crois que dans notre monde aujourd'hui, les passions tristes, elles sont beaucoup dans cette société offshore qui a capté ce 1%, voire pire. C'est un monde d'une très grande violence. C'est un monde à part. C'est un monde qui ne vit pas comme nous, la plupart d'entre nous. Et c'est une grande passion triste, parce que vous citez Trump, etc. Vous citez même Salvini, Orban, Bolsonaro. Ils sont du côté de l'appropriation. Ils sont du côté de la consommation. Ils sont du côté du déni écologique. Ils sont du côté de la voracité. La montre tourne quand même. La montre tourne. Et ce monde nous envoie dans le mur. C'est ça. Alors quand il y a des gens qui se retrouvent au rond-point, tels qu'ils sont, avec leur beauté et leur laideur, et qui disent « tirons le signal d'alarme, arrêtons ce train d'enfer », eh bien moi je dis « c'est une bonne nouvelle, il faut en tout cas l'accompagner ».
François Dubé.
Non, je... mais c'est probablement une affaire de sensibilité, parce que d'une certaine manière, les faits sur lesquels on s'appuie pour le moment sont quand même un peu flottants dans la situation. où nous sommes. Moi, je suis plutôt frappé, c'est le fait que, qu'au fond, on est dans un vieux raisonnement qui dit un mouvement est bon et juste dès lors qu'il combat un adversaire ignoble et injuste. Or, c'est là que j'ai un problème, parce qu'après tout, on a aussi la même expérience. On a lu les mêmes livres, on a la même expérience historique. On sait bien qu'il ne suffit pas de combattre un adversaire ignoble pour se retrouver nécessairement du bon côté. Il ne suffit pas de dire « je suis le peuple contre l'oligarchie, les intellectuels ». J'aime pas quand vous dites « les sachants », etc. Je crois que c'est devenu un peu dangereux aujourd'hui. Je crois que sur un certain nombre de problèmes, il y a des gens qui savent, que ceux qui savent peut être discutés, mais que... moi, je vois trop autour de moi des gens qui disent « au fond, tout ça, c'est pareil, on se fait toujours avoir ». Non, la Terre est ronde, on est plutôt d'accord là-dessus, et ça n'est pas une opinion. Ça n'est pas une opinion. Et le monde est comme il est, il ne nous plaît pas, mais ça n'est pas une opinion. Il existe, il est comme ça. Donc, je pense que pour le moment, on est dans une sorte d'illusion lyrique. Un peu triste, à dire, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de société, les gamins des banlieues la ferment, tant mieux, parce qu'autrement, je suis sûr que ça, qu'on aurait un climat qui ne ressemblerait ni à la commune, ni à autre chose. Donc, pour le moment, c'est comme ça. Mais je crois qu'il faut admettre que ce mouvement nous met dans un moment de suspension. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quel côté ça va tomber. Et quand même, je vous trouve... Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Bon, moi, je partage les sentiments d'injustice que ces gens dénoncent. Mais quand même, je suis frappé par le caractère flottant, complètement flottant de leurs propos. Je veux dire, vous écoutez le même leader autoproclamé, qui a d'ailleurs dézingué immédiatement par ses petits camarades, qui parle un coup comme un fasciste... pur jus, un coup comme un lecteur de Mediapart. Il faudrait quand même comprendre qu'on est dans un monde qui vacille de ce point de vue-là. Et je crois que la démocratie, évidemment, la question qui se pose, c'est que la démocratie représentative va mal aujourd'hui, qui a une aspiration à recréer de la légitimité populaire. Mais la démocratie, on sait tous qu'à la fin, elle est représentative, elle suppose des droits, elle suppose des contre-pouvoirs, et qu'à un moment, il va bien falloir se refroidir la tête un peu.
François Dubet, Edwy Plenel, vous répondez dans un instant, après une nouvelle pause.
Europe 1. De 9h à 10h le dimanche, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec ce dialogue inédit, 4 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes entre Edwy Plenel et François Dubet. Edwy Plenel, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir cédé, comment a dit François Dubet, à une sorte d'illusion lyrique à propos du mouvement des Gilets jaunes ?
Non, cette conversation confirme ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Parce qu'au fond, ce livre est d'abord une interpellation des gauches. Des gauches qui, avec parfois les meilleures intentions du monde, comme l'a exprimé François Dubet, préfèrent rester sur le côté. Elles se disent « c'est flottant, on ne sait pas où ça va aller », et on regarde de loin, je le dis, on se trouve toutes les bonnes raisons pour ne pas rentrer dans la mêlée. Je cite Walter Benjamin plusieurs fois dans ce livre. Benjamin dit à un moment, Marx disait « les révolutions sont les locomotives de l'histoire ». Et Benjamin dit non, il s'est trompé. Les révolutions, c'est ce moment où les passagers du train, ils peuvent être très divers, les passagers du train, tirent le signal d'alarme pour déclencher les freins d'urgence parce que, dit-il, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Eh bien, moi, je crois sincèrement que tout moment, et ça ne dit pas leur futur, et je crois que je prends toutes les précautions dans mon livre sur le fait qu'il y a une bataille et qu'on voit bien que le pouvoir actuel veut renvoyer cette foule du côté de l'extrême droite, n'avoir en face de lui que Marine Le Pen, et du coup piétiner tout contre-pouvoir, toute pluralité dans la société. Mais moi, ce que je dis, c'est que de la même manière qu'au même moment, il y a ces jeunes qui disent « désormais, on n'ira pas à l'école tous les vendredis, parce que c'est dans 12 ans, a dit le GIEC, que c'est fini. Hein. Dans 12 ans, c'est trop tard pour rattraper la course de vitesse du dérèglement par notre espèce du tout vivant du monde. » Eh bien, du coup, aller en cours et ne pas se mobiliser là-dessus, eh ben, pareil, on tire le signal d'alarme, on s'arrête. Et donc, je crois que c'est important. Et ma comparaison entre ce mouvement écologique et ce mouvement social et les quartiers populaires, car Mediapart, nous y sommes très sensibles, vous voyez, il y a un lien. Et là, je trouve que les gauches n'ont vraiment pas été au rendez-vous. Le lien, j'en termine là, c'est les violences policières. Je suis sidéré que, quoi qu'on pense du mouvement des Gilets jaunes, l'ensemble des forces de gauche, syndicats, partis, associations, n'est pas appelé à de grands rassemblements, à une grande manifestation. Dans quelques jours va être votée la loi qui fait régresser les droits de manifestation et ça concernera tout le monde. Eh bien, qu'il ne se soit pas dit, face à ce qui n'est pas du maintien de l'ordre, ce qui est de la répression, et la même qu'on trouve dans les quartiers populaires, la même dont les jeunes sur le climat, rappelez-vous Sylvain, sont été victimes, eh bien ça c'est une question commune.
François Lubet, sur l'idée du grain de sable ou du frein de secours, c'est-à-dire face à une situation sociale inégalitaire, injuste, le fait que toutes les alertes ou toutes les signaux sont bons à prendre.
Il y a deux problèmes, je veux dire. Il est évident que ce mouvement des Gilets jaunes, comme on dit, est un mouvement qui a une importance historique. C'est-à-dire ça va créer un événement majeur. Il y aura un avant et un après les Gilets jaunes. Macron sera obligé de changer sa politique, c'est évident. Sur la violence, je partage ce sentiment, mais en même temps, je rappelle qu'il y a eu 11 morts sur les ronds-points, que ce n'est pas la police qui les a tués, et qu'on les a présentés comme des martyrs du mouvement, alors que, bon, on pourrait discuter. Le rapport à la violence n'est pas aussi simple que ça. Moi, dans ma bonne ville de Bordeaux, je vois quand même une sorte de bagarre de supporters tous les samedis avec la police, qui est un peu désagréable. Mais je crois que le problème qui se pose, c'est pas que la gauche ou d'autres n'interviennent pas, c'est que tout ce qu'ils ont essayé de faire ne prend pas. C'est qu'on est dans un décalage total. C'est-à-dire que la rhétorique politique, après tout, si on veut parler simplement, la France insoumise devait ramasser la mise. La haine de Macron est dans les gènes depuis longtemps. Ruffin en fait des tonnes. On a même l'impression que Macron lui a piqué sa femme tellement qu'il le déteste, etc. etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le Front National, le Rassemblement National va peut-être ramasser la mise parce qu'il ne dit rien. C'est quand même une stratégie extraordinaire. Donc, on est dans quelque chose qui est dangereux, à mon avis. Ce n'est pas les Gilets jaunes qui sont dangereux. Ce qui est dangereux, c'est quand vous avez des colères et que ces colères ne fabriquent pas une demande suffisamment organisée, parce que ça s'appelait avant des syndicats, des mouvements sociaux, des associations. C'est ça. Il va bien falloir.
Et du plein air, vous dites que c'est le 20e siècle, ça.
Eh bien, je crois que si c'est le 20e siècle, on est condamné à vivre dans un monde dans lequel le monde sera dirigé par des élites technocratiques bien formée et intelligente, et de l'autre côté, des colères populaires qui se manifesteront sur Internet. Ce n'est pas tellement le monde dans lequel j'ai envie de vivre.
C'est pas... Je précise, je dis juste que nous sommes des artisans de la vérité et de ces petites vérités de fait. Et donc ces vérités de fait disent quoi ? Elles disent qu'il n'y a pas des gens d'en haut qui peuvent, d'en haut, penser la société à la place de la société elle-même. Et vous le savez, pour être un élève de Touraine, Touraine a inventé dans la foulée de 68 l'idée que la sociologie devait se faire aussi de manière participative avec les interlocuteurs
sans
eux-mêmes.
Sans relais d'en haut, vous dit François Dubé, l'indignation tourne à vide, elle ne débouche sur rien.
Mais il y a plein de relais d'en haut. Nous sommes dans une révolution industrielle, Patrick Cohen, qui s'appelle le numérique ou le digital. Toute révolution industrielle, je l'ai écrit dans d'autres livres, et nous le pratiquons avec le laboratoire de Mediapart, appelle un nouvel imaginaire démocratique. Parce que nous, journalistes, elle nous convie dans ce travail d'information, alors qu'en même temps, la question de l'opinion, du point de vue, est reconquise par tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer directement. Je le défends en disant, oui, il y a un risque. C'est que nous soyons dans le règne des opinions. Le règne des opinions, c'est la mort de la vérité. Mon opinion contre la tienne, mon point de vue contre le tien, ma croyance contre la tienne, mon préjugé contre le tien. Il faut que pour qu'il y ait un débat de raison, il faut qu'il y ait les vérités de fait, il faut qu'il y ait l'information au cœur, et c'est notre responsabilité à nous, journalistes, mais aussi aux sociologues. Le sociologue doit regarder l'événement. Je cite Edgar Morin tout de suite sur l'événement dans le livre. Être confronté à l'événement, comment l'événement remet en cause, comment l'événement nous oblige à penser.
François Dubet, vous avez été interpellé comme disciple d'Alain Touraine, qui a été votre directeur de thèse.
J'en suis très heureux, j'en suis très fier. Mais
pas une critique.
Et je garde cette image des mouvements sociaux et au fond de la sociologie que j'essaie de faire. C'est-à-dire, que signifie l'action, que signifie le mouvement, etc. Et je crois que il faut bien comprendre que les mouvements se créent quand vous avez des demandes et des capacités de les construire. Après tout, dans une histoire politique assez récente, on raisonnait en termes d'avant-garde, de parti, d'intello, c'est-à-dire qui écrasait d'ailleurs les mouvements et qui même les ont liquidés physiquement la plupart du temps au nom de la supériorité de la théorie. Mais on n'est pas obligé de refaire ça, mais il faut quand même fabriquer, produire des demandes. Après tout, qu'est-ce que fait un syndicat ? Un syndicat, c'est une machine qui fait que des gens qui se sentent pas bien, maltraités, mal payés, etc., qui ont mille raisons d'être en colère, vont fabriquer quelque chose qui s'appelle une demande, une rationalité, un projet, vont finir, ce qui est très désagréable, par tenir compte du monde tel qu'il est.
Et donc
c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander quand même n'importe quoi.
Et donc fabriquer du compromis.
Et vont fabriquer du compromis. Et moi, je crois que ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui, c'est qu'on ne fabrique pas des compromis. On cale. Les gens sont en colère, on cale, on lâche du fric. Bon, mais ce n'est pas un compromis. Un compromis veut dire qu'on a un problème en commun, des intérêts contradictoires et qu'on essaie quand même de vivre ensemble. Et c'est ça qui me paraît aujourd'hui un tout petit peu inquiétant. Moi, de ce point de vue-là, je le cache pas, j'ai la nostalgie de ces années heureuses qui ont été celles de la social-démocratie.
Je voilà. Juste sur le mot compromis, mot. Bien sûr que c'est mieux de trouver des majorités d'idées, des compromis. Mais pour ça, il faut retrouver une démocratie réellement délibérative et pas la confiscation actuelle. Et enfin, il faut prendre la mesure de l'époque historique dans laquelle nous sommes, où quand même, la catastrophe n'est pas loin.
Merci beaucoup Edwy Plenel, la victoire des vaincus à propos des Gilets jaunes aux éditions La Découverte. Merci François Dubay, le temps des passions tristes, inégalités et populisme, au seuil dans la collection La République des idées. Europe 1. Bertrand Blier, le cinéaste des valseuses de Buffet froid, de Trop belle pour toi, n'avait pas tourné depuis 10 ans, il revient en fanfare avec un casting 5 étoiles, Gérard Depardieu et Christian Clavier, c'est d'ailleurs écrit dans le titre, convoi exceptionnel, mercredi prochain au cinéma. Bertrand Blier nous parle de ses films passés et à venir, de sa carrière, des acteurs et de son père, Bernard Blier. À tout de suite.
Europe 1. C'est arrivé demain, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Bertrand Blier.
Bonjour.
Vous voici donc de retour 8 ans après le bruit des glaçons pour ce convoi exceptionnel. Le mot important là-dedans, je pense que c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce film pour vous ?
J'ai pensé aux deux acteurs. Je me suis dit, c'est du lourd.
Depardieu, Clavier.
Donc ça sera un convoi exceptionnel.
Exceptionnel. Vous avez toujours fait des films gonflés. Les Valseuses, c'était gonflé. Buffet froid, Beau-père, Tenue de soirée, c'était très gonflé. Ça a été compliqué de le monter, ce film-là ?
Le dernier, là ?
Oui, convoi exceptionnel.
Pas trop. Le film est fait. Il sort, là.
Il sort. C'est plus difficile qu'avant ?
Oui et non, ça a toujours été difficile. Honnêtement, c'est un métier de chien. Buffet froid, par exemple, dont on me dit c'est mon meilleur film, j'ai mis un an à trouver le pognon. Tout le monde me disait, on n'en veut pas. Nous, tes amis, on va t'éviter de le faire. Voilà ce que me disaient mes amis producteurs. On l'a fait quand même.
Et vous avez eu raison de vous obstiner. Évidemment, l'argument de ce convoi exceptionnel tient en une phrase, mais vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord. Deux hommes, Depardieu, votre 8e film avec lui, et Clavier, se rencontrent dans la rue et s'aperçoivent qu'ils sont les personnages principaux d'un scénario en train de s'écrire.
C'est une explication qui en vaut une autre.
C'est en tout cas ce qu'on pige tout de suite sur la scène d'ouverture. En voici un extrait.
Mon histoire vous ennuie ?
J'ai peur qu'on soit pris par le temps.
Mais pourquoi on serait pris par le temps ?
Mais parce qu'on ne va pas faire attendre Monsieur Réveillé.
C'est qui Monsieur Réveillé ?
L'homme avec qui on a rendez-vous.
Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui ?
C'est pour le tuer.
Mais j'ai pas du tout envie de tuer avec moi.
Même Monsieur Réveillé ?
Mais même Monsieur Réveillé.
Bah mais malheureusement, il va falloir.
Mais pourquoi il va falloir ?
Mais parce que c'est écrit dans le scénario !
Le scénario ? Mais quel scénario ?
Oh non ! Oh non, mais non, mais ne me dites pas qu'ils vous ont pas donné un scénario !
Mais comment je vais faire ? J'ai pas de scénario !
Bon, allez, venez avec moi, je vais vous expliquer comment ça marche. Venez, allez,
comment
venez.
Ça marche,
venez.
Clavier et Depardieu, dialogue signé Bertrand Blier dans la veine absurde de Buffet froid. Est-ce qu'il y avait quand même chez vous, Bertrand Blier, cette envie de prolonger ou de refaire un Buffet froid ?
De revenir dans cette maison hantée qui était Buffet froid, oui. J'ai souvent voulu faire des films dans le style de Buffet froid. On me déconseillait de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Mais celui-là en est un, oui.
Celui-là en est un. Ce dialogue, cette façon de dire des choses qui n'ont ni queue ni tête, avec la plus absolue conviction, Est-ce que ça pourrait marcher avec d'autres comédiens?
Oui,
cette
oui.
scène-là qu'on vient d'entendre, vous l'avez écrite en pensant Depardieu Clavier.
Oui, non, mais c'est normal. Je suis fils d'acteur, un très bon. Donc j'ai gardé ce truc-là dans mon héritage et j'ai toujours pensé aux acteurs, vécu avec les acteurs et travaillé pour eux. Donc le cinéma pour moi, c'est d'abord qui joue le rôle et pour qui on écrit. Si je n'ai pas d'acteur, j'écris rien. Ou c'est Clavier, ou c'est Michel Blanc, ou c'est Depardieu, ou c'est Gérard, pareil, le plus puissant de tous. C'est la bête. C'est le broyeur.
Et il connaît la musique parce qu'avant de devenir Raoul Taupin, il a été Alphonse Trame dans Buffet froid et vous lui faisiez déjà dire, ça vous arrive jamais d'avoir envie de tuer quelqu'un. On tourne aussi souvent autour de la mort avec vous. Hein,
oui, bien sûr, l'envie de tuer.
Hein.
L'envie de tuer quelqu'un, ça c'est une envie formidable qui n'est faisable qu'au cinéma. Parce qu'au cinéma, on dit couper, le mec se relève. Donc c'est merveilleux.
Alors Depardieu, on vient d'en parler, c'est une évidence. Et Clavier, pourquoi Christian Clavier? Et un Clavier sérieux?
Clavier, ça faisait longtemps que je le regardais et qu'il m'a fait rire dès le départ. Il m'a fait rire dans Les Bronzés. Il m'a toujours fait rire, je l'ai toujours trouvé formidable. Et les autres aussi, mais les autres, je les ai fait tourner. Donc il en restait un qui attendait sur le...
Vous avez fait tourner toute la bande du Splendide?
Pratiquement toute la bande. Ils sont tous passés à la Moulinette.
Sauf Clavier.
Clavier, c'est pas qu'il était contre, mais il attendait que je vienne. Il était sur le quai avec sa petite valise et il attendait. Alors je suis allé le chercher, je lui ai proposé, il m'a dit oui, c'était évident. Mais simplement, je lui ai passé une commande. C'est-à-dire, je lui ai dit, je veux pas du clavier comique. Parce que le clavier comique, tout le monde le connaît. Je veux un clavier lugubre. Un Buster Keaton, un mec qui fait la gueule. Qui peut être drôle aussi, mais qui est quand même plus inquiétant et grave. Et ça lui a plu, il l'a fait.
À part cela, dans votre convoi exceptionnel, il y a des femmes.
Plein
de femmes. Il y a une showrunner, une femme qui pilote la série et le scénario, qui commande
qui
le film.
Qui dirige les écritures, tout.
Exactement, qui est jouée par Audrey Dana. Mm-hmm. Une femme, une femme qui erre, une femme perdue.
Une femme perdue, oui.
Farida
Rawaj, oui.
Qu'on avait vue dans les côtelettes. Hein.
Oui, qui est remarquable. Qui a eu la scène la plus difficile du film. Un monologue absolument effrayant où elle raconte sa vie et qui est extraordinaire. Je crois qu'il y a Alexandra Lamy aussi qui est merveilleuse.
Ouais. Et alors Farida, en plus de ce monologue, vous lui faites chanter l'une des chansons de Suzy Delair dans Quai des Orfèvres,
oui,
de Clouseau,
oui.
qui a été l'un des grands premiers rôles de votre père Bernard Blier. Clin d'œil,
un de ses meilleurs films.
Aussi, oui.
Oui. Je ne sais pas pourquoi cette chanson, mais j'adore Quai des Orfèvres. Donc,
oui.
J'ai dû le voir 15 fois. Et donc, cette chanson m'est revenue, et puis j'ai bien connu Clouseau. Donc, il y avait un côté, on soulève le chapeau, quoi.
Quai des Orfèvres, pour mémoire, et comme on défend ici le cinéma de patrimoine, c'est Louis Jouvet, Bernard Blier, évidemment, Suzy Delair, Charles Dulin.
Il y a Larquet aussi.
Et il y a Pierre Larquet.
Qui fait le chauffeur de taxi.
Et Simone Renan, qui a... une sexualité qu'on n'avouait pas à l'époque dans les
qu'on
films de cinéma.
Pas, mais qui est dans le Quai des Orfèvres.
Il y a aussi dans votre film, j'y reviens parce que c'est votre film de 2019, Bertrand Blier, qu'on voit exceptionnel, il y a aussi un vieux producteur de cinéma dont vous avez donné le rôle à Guy Marchand.
Oui, il y a des producteurs qui sur la fin de leur vie, sont pas clodo, mais enfin, ils ont fait des affaires nulles, quoi.
Oui.
Il y en a d'autres, il y en a qui sont riches, mais ils sont souvent riches.
Alors,
plus que les metteurs en scène.
Oui, le vôtre que vous avez imaginé, il n'a fait que des bides.
Il énumère
tous les bides qu'il a fait
au
cinéma.
Oui, ça n'a jamais marché.
Voilà. Alors on écoute.
C'est dommage parce que c'est un bon acteur.
L'extrait de cette scène avec Guy Marchand.
Vous savez la différence entre la vie et le cinéma? Parfois je sais. Et parfois je ne sais pas. Mais dans la vie, on meurt. Au cinéma, on meurt jamais. Jamais. Par exemple, Mastroianni, il sera jamais mort. Jamais. Mastroianni.
Bon, ben, écoutez, mon vieux, on va pas s'éterniser, on a des rendez-vous. Ravi de vous avoir connu.
Gérard Depardieu face à Guy Marchand. Dans la vie, on meurt. Au cinéma, on ne meurt pas. C'est ce que vous pensez, Bertrand Blier?
Oui, c'est une façon d'en parler. C'est-à-dire que ça reste... C'est vrai que Marcello Mastroianni, il est toujours avec nous. On le voit dans les films. Égal, toujours au top. Donc, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas que des morts, il y a aussi des revenants merveilleux.
Et Bernard Blier, dont on vient de parler, entre autres.
Oui, ça, avec... c'est différent, parce que là, quand je le vois, je change de chaîne quand même. C'est un peu impressionnant.
Ah oui.
Trop impressionnant. Et Patrick Devers aussi. Patrick Devers, je ne supporte pas. Ce sont des fantômes quand même.
Et ils sont à ce point écrasants pour vous que vous ne supportez pas la
vision. On est triste de savoir qu'ils ne sont plus là. Quoi. Bon, le père, c'est normal.
Ouais.
Vous voyez votre père à la télévision, ça fait bizarre. Mais Patrick, avec qui je n'ai pas de lien de parenté, c'est un ami, c'était un mec avec qui je pensais faire 15 films.
Ouais. Et mais justement, ils ont incarné, ils ont habité parmi vos plus grands films, Bertrand Blier. Donc vous devriez pouvoir revoir ces scènes avec beaucoup de tendresse et
parfois, j'arrive
un
à
peu
les
de
voir.
Nostalgie.
Parfois, je les revois quand je les montre à mes enfants. Mais tout seul, je me barre, j'ai peur. Tout seul, je pars en courant.
Et puis, vous pouvez avoir la fierté d'avoir offert l'un de ses plus grands rôles à votre père.
Ah oui, ça oui.
Parce que dans Buffet froid, il est absolument extraordinaire.
Il est historique.
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 Pour le plaisir, un morceau de dialogue de l'inspecteur Morvandio.
Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Recrudescence de la violence dans le 14e district. Recherchez Renault 5 bleu, SOS médecin, immatriculé 7246GW75. Conducteur dans mal arrière. Les assassins sont jeunes, portent des cheveux longs, des blousons de cuir noir.
Dans la vie, on meurt, au cinéma, jamais, donc vous ne ferez un autre film, Bertrand Blier ?
Normalement, j'en ai deux en projet.
Deux ?
Oui. Ce que je voudrais retrouver, c'est la violence que j'avais quand j'ai fait les valseuses. J'ai envie de retrouver ça. Parce qu'il y a de la violence aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de violence qu'au moment où j'ai fait les valseuses. Donc j'ai envie de voir ça. J'ai un film non pas trop violent, où il y aura sans doute Christian Clavier, et un autre derrière qui sera très violent. Enfin, violent, on n'est pas obligé de tuer tout le monde, mais enfin, de mauvaise fréquentation. Quoi.
Oui, oui, mais de toute façon, beaucoup de vos films sont mal élevés.
Mal élevés, très mal élevés, à déconseiller.
Bertrand Blier. Bertrand Blier, metteur en scène de Convoi exceptionnel, mercredi prochain sur les écrans. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé demain, émission préparée par Marina Pruzès et Laure Dossy, réalisée par Sophie Mallier. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain à 9h, juste après 9h. Excellente journée, excellente semaine à l'écoute d'Europe 1. Dans 5 minutes, ce sera le grand rendez-vous. Bonjour Hélène Jean.
Bonjour.
Votre
bonjour
invité ce matin.
François Bayrou, président du Modem et maire de Pau, on dit vu Emmanuel Macron seul à l'Elysée. Pas du tout. Il a un ami qui l'écoute.
Au bout du fil.
Exactement, François Bayrou. Alors que lui conseille François Bayrou pour sortir par le haut de cette crise des Gilets jaunes? On vit les derniers jours du grand débat national. Réponse de François Bayrou dans quelques instants.
Coup de fil à un ami, François Bayrou, donc dans le grand rendez-vous. À tout à l'heure.